aujourd'hui, mardi 10 novembre, c'est une journée de grève dans l'éducation nationale. Les syndicats enseignants réclament un véritable plan d'urgence pour l'éducation en ces temps de crise sanitaire. On entendra un point de vue syndical avec celui de Catherine Piécuche pour la FSU, mais avant cela, quelques points de vue de lycéens. Vivien, Lou, Thaïs et Adèle sont élèves à Gambetta et Robespierre à Arras. Ils participent aussi chaque semaine à l'atelier Radiolab de PFM. On les retrouve au micro de Bernard par communication internet interposée. Ils nous parlent des conditions sanitaires de leur rentrée scolaire la semaine dernière.
Rien n'a changé en fait. À la limite, non. C'était même pire que la rentrée, quoi. Il y a un relâchement, je trouve. Par exemple, là, avec les récrés, par exemple, on peut encore rester à l'intérieur. Avec le nouveau protocole, ça sera interdit. Ça sera fermé. Et on doit aller tout de suite en classe. Mais après, c'est aussi aux élèves de respecter, parce que je vois beaucoup d'élèves qui respectent rien. Et après, qui se plaignent que le coronavirus circule encore. Il faut un petit peu réfléchir, quoi. Et c'est aussi au niveau des cantines scolaires, parce qu'on porte le masque toute la journée. C'est chiant. Le midi, donc à la cantine, on le retire tous et on est tous entassés dans la cantine, même si elle soit grande, petite. À la fin, on est vraiment collé à tout le monde. Et par exemple, Robes, à partir de lundi, ils ont fait un plan. Vu que la cantine est quand même très, très grande à Robes, c'est qu'il va y avoir un espace pour les secondes, première terminale et aussi les prépas présents à Robes. Certes, on peut peut-être trouver ça ridicule, mais c'est tout ce qu'ils peuvent faire, quoi. C'est déjà bien d'y penser, mais c'est surtout la mise en place du protocole sanitaire qui est en fait un petit peu mauvaise, parce que bah, y a pas les moyens ni l'organisation pour, quoi.
Tout le monde était ensemble parce qu'en fait, finalement, à la cantine, on enlevait nos masques pour manger, c'est normal. Mais vu qu'on mangeait avec d'autres personnes et qu'il n'y avait pas de distanciation sociale, on pouvait très bien être contaminé ou contaminer des gens. Et même dans les couloirs, il y avait tellement de monde rassemblé dans un même espace ou même dans une classe. On est tous serrés, il y a pas de les classes elles sont pas non plus très grandes et on est au moins 35 par classe, donc c'est sûr que les gestes barrières, finalement, à part mettre du gel et porter son masque, la distanciation sociale, on peut pas respecter les 1 mètre de distance.
Il y a eu une réunion hier à propos de ça parce qu'on n'avait pas assez de gestes barrières, etc., parce qu'on était trop nombreux à Gambetta. Du coup, là, on va avoir une semaine sur deux, un groupe 1 et un groupe 2.
On sera... En fait, c'est juste des profs qui vont donner du travail. Et après, le travail qu'on aura fait pendant la semaine, on va le retravailler la semaine d'après. Ils vont nous réexpliquer ce qu'on n'a pas compris. Moi, je serai confinée là toute la semaine. Et après, je reprendrai, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après.
Donc, il y aura un groupe 1, groupe 2 aussi. Par exemple, lundi, mardi, je vais en cours. Mercredi, j'ai pas cours. Et le jeudi, vendredi, je reste chez moi. Et vice-versa. La semaine d'après, je resterai chez moi au début de semaine et j'irai en cours en début de semaine. Je trouve que c'est un peu bordélique. Mais un peu des respects, un petit peu de nouveaux protocoles, enfin des protocoles sanitaires, je trouve que c'est impossible en fait, de les mettre. Parce que Gambetta, Robes, ou d'autres lycées d'art, c'est trop de monde. On est trop.
C'est mieux, c'est beaucoup mieux que le protocole sanitaire qu'on a eu jusqu'à présent. Donc, je pense que déjà, ça va permettre de freiner le virus, mais je pense pas que ce soit la solution. Je pense, de toute façon, même si je l'espère pas, c'est quasiment sûr qu'il faudra reconfiner parce que finalement, à part les commerces qui sont fermés, il y a quand même beaucoup de monde qui continue à travailler. Les entreprises de BTP, ils continuent à travailler. Et il y a quand même beaucoup d'emplois qui ne peuvent pas être en télétravail. Donc, je pense que le virus, si tout le monde n'est pas reconfiné, le virus risque de continuer de circuler.
Lou, Adèle, Thaïs et Vivien, lycéens à Gambetta et Robespierre à Arras, interviewés via Internet par Bernard, c'était samedi dernier. On enchaîne avec une autre interview réalisée par Internet, cette fois hier matin, cette fois-ci un point de vue syndical. Catherine Piécuche, vous êtes secrétaire académique de la FSU dans le Nord-Pas-de-Calais. Votre syndicat appelle à une journée de grève mardi 10 novembre aux côtés d'autres syndicats, FO, CGT, Éducation, Sudaction. Cet appel, il est lancé pour dénoncer d'abord une situation sanitaire que vous jugez inacceptable dans les écoles ?
Tout à fait, dans les écoles, les collèges, les lycées généraux technologiques et professionnels. On sait, tout le monde le sait, que la circulation du virus est devenue pratiquement incontrôlable depuis plusieurs semaines, en particulier dans notre région, mais pas seulement, mais notre région est particulièrement touchée. Aucune mesure sérieuse pour protéger l'ensemble des personnels et protéger les élèves et leurs familles n'a été prise jusqu'à présent, donc pour les écoles, les collèges et l'ensemble des lycées. Le ministre a communiqué il y a une dizaine de jours lors de sa conférence de presse en disant que le protocole serait renforcé partout à partir du 9, c'est-à-dire à partir donc de lundi. De fait, il n'en est rien. C'est pour ça que depuis le 2, depuis la rentrée des vacances de novembre, de très nombreux lycées de l'académie se sont mis dans l'action. Alors, je dirais pas spontanément, hein, ça avait été travaillé au préalable, y compris pendant les congés scolaires, puisque les collègues étaient particulièrement alertés par des classes surchargées. Il faut savoir qu'en lycée, les classes à plus de 35 jusqu'à 40 sont fréquentes, que les sens de circulation dans les couloirs, à la cantine, alors dans les internats, etc., sont extrêmement prégnants, je dirais. Ce sont des problèmes vraiment très, très aigus. Et donc, les élèves eux-mêmes se sont mis à diffuser sur les réseaux sociaux dès lundi dernier et à envoyer à la presse directement des photos qu'ils avaient prises dans leurs établissements. Et cette conjugaison de l'action des collègues, puisqu'il y a eu de nombreuses actions dès lundi, hein, des débrayages, des droits de retrait collectifs, des grèves dans de nombreux établissements, ont poussé, alors ça a été dans le vrai dans notre académie qui est particulièrement mobilisée, ont poussé le ministre à déclarer lundi, jeudi dernier, pardon, que des demi-groupes seraient possibles si les établissements le demandaient. Pour nous, c'est une avancée hein, qui est vraiment à mettre au compte de la mobilisation des collègues, mais c'est loin d'être suffisant. Déjà parce que ce n'est pas l'ensemble des lycées, ni de l'académie, ni au niveau national, qui sont dans ce mode de fonctionnement en demi-groupe, alors que la situation est grave partout. Donc, tous les lycées, tous les élèves et tous les personnels doivent être à égalité de traitement. Que d'autre part, rien n'est fait pour les collèges et pour les écoles. Et donc, il est absolument nécessaire de faire prendre conscience à l'ensemble de la population que la situation est grave au niveau de l'enseignement et qu'il faut absolument passer à minima à des demi-groupes pour continuer à garder écoles, collèges et lycées ouverts. Parce que si rien n'est fait, d'ici peu de temps, tout sera refermé. Et nous, nous ne voulons pas que ce soit refermé. Nous tenons à l'enseignement, comme on dit, en vrai, en présentiel, parce que c'est la seule solution pour qu'on fasse progresser les élèves. On sait, on l'a dénoncé l'année dernière très très vite, que le confinement total a eu des effets extrêmement néfastes sur nombre d'élèves de l'académie, mais au niveau national. Toutes les recherches, elles le montrent, même si cela a été complètement nié par ce gouvernement.
Sur la situation actuelle, est-ce que vous avez des chiffres, des remontées sur le nombre d'élèves, d'enseignants, de personnels de l'éducation nationale qui sont malades, qui sont positifs au Covid ?
Encore une fois, grâce à nos interventions, notamment au niveau du CHSCT, on a pu obtenir à partir de fin septembre des chiffres officiels de la part du rectorat. Ils vont dans le même sens que les chiffres qui ont été donnés par M. Blanquer la semaine dernière au niveau national, et c'est-à-dire ils tendent à minimiser la situation. Alors, pour deux raisons. La première raison, c'est que tous les cas ne sont pas remontés directement par les établissements. Normalement, en cas de positivité ou même en cas de cas contact d'un personnel ou des élèves, le chef d'établissement doit faire remonter. Encore faut-il qu'il ait tous les données. Et donc, ce qu'on sait, c'est que dans tous les établissements, on a un volant de personnel, soit cas contact, soit cas positif. Et au niveau des élèves, en nombre absolu, c'est bien sûr encore plus important. Ce qui est intéressant, nous, on a fait, alors au niveau du SNES FSU, on a fait des analyses de ces chiffres, et ce que l'on voit, c'est que la contamination dans les établissements scolaires, à la fois pour les élèves et à la fois pour les personnels, notamment les enseignants, est beaucoup plus importante, hein, de 2 à 3 fois plus importante que dans l'ensemble de la population. Donc les chiffres en absolu, en nombre, ne veulent rien dire. Par contre, l'évolution, autant au sein de la population spécifique des écoles et des établissements, elle montre bien qu'il y a un vrai danger puisque le nombre est un minimum multiplié par 2 par rapport à l'échantillon de la population normale.
Alors, vous l'avez dit, le ministre de l'Éducation a réagi jeudi dernier, donc en autorisant les lycées à organiser une partie de cours à distance, en disant aussi que le bac se ferait en contrôle continu en 2020-2021. Quelles autres préconisations vous formulez, vous, au niveau du syndicat notamment? Vous parliez du doublement de classe. Comment vous voyez cette chose? Et puis, par rapport aussi à l'embauche de personnel?
Oui, alors il y a plusieurs points, effectivement. Alors, au niveau des demi-groupes, alors ça, on fait bien attention à dire que ce n'est pas du cours en distanciel. La semaine ou les jours, parce que les modalités retenues ne sont pas les mêmes selon les établissements, notamment selon que les établissements se trouvent en centre-ville, avec une population qui recrute essentiellement sur la ville, ou s'il y a des ramassages scolaires. Donc, parfois, il peut y avoir alternance une semaine sur deux en présence dans l'établissement, parfois c'est un jour sur deux. Hein, donc, les modalités sont adaptées. Le jour ou la semaine où les élèves ne sont pas là, en fait, ils ne sont pas en cours en distanciel, comme on l'appelait au mois de mars, avril, mai, mais ils ont du travail à la maison à faire. Après, c'est la liberté des enseignants de voir comment ils donnent ce travail à la maison, travail qui sera une préparation au cours de la semaine suivante, hein, un petit peu plus que d'habitude, pour qu'il y ait toujours un lien et qu'il y ait toujours un travail qui soit fait. Il n'est pas question pour nous, et on insiste beaucoup là-dessus, la rectrice d'ailleurs l'a confirmé, de faire un double travail, puisque les enseignants sont devant des élèves tout le temps, sur leur emploi du temps normal. Donc ça, c'est un point extrêmement important, puisque dans un certain nombre d'endroits, il y a la volonté du chef d'établissement d'imposer des doubles journées aux enseignants. Ça, ce n'est pas acceptable, et encore une fois, la rectrice l'a confirmé lors de l'audience intersyndicale de mardi dernier. Sur le bac, pour nous, on n'est pas satisfait de ce qui a été proposé, puisque les épreuves, les évaluations communes qui commencent normalement à partir de janvier, alors c'est aussi à notre initiative, grâce à l'action des collègues, qu'on a pu avoir un report. Alors, ce n'est pas un report qui est obtenu pour l'instant, c'est une prise en compte du contrôle continu. Nous, ce n'est pas ce que nous demandons. Nous demandons un report en fin d'année scolaire, en épreuve terminale. Vous parlez également de l'embauche des personnels. Alors, bien évidemment, ça, c'est un élément absolument clé. Embauche des personnels, nous, que nous demandons, et que là, d'ailleurs, une intersyndicale large, hein, demande une embauche que ce soit en personnel enseignant, que ce soit en personnel de surveillance, en CPE, et également en membres de la collectivité territoriale, des agents d'entretien. Il n'y en a pas assez dans les établissements, ni dans les collèges, ni dans les lycées. Alors, nous, on tient particulièrement à dénoncer les propos de Xavier Bertrand, hein, et de la vice-présidente à l'éducation, Noël Martin, pour les lycées de l'Académie, qui est en train de dire, si je résume, que le gouvernement doit embaucher, mais qui lui-même ne fait absolument rien pour à la fois embaucher et faire les travaux nécessaires dans les lycées de la région. Il faut savoir que les lycées, notamment du Pas-de-Calais, souffrent de graves problèmes de fenêtres. Beaucoup de lycées ne peuvent pas ouvrir du tout les fenêtres, donc l'aération, qui est le quatrième geste barrière, ne peut pas se pratiquer. Donc, les élèves et les personnels sont en danger. Nous, on alerte là-dessus. On a envoyé déjà 2 courriers à Xavier Bertrand, qui reste à ce jour sans réponse. Donc, on va lui envoyer, au niveau de la FSU Hauts-de-France, une lettre ouverte, puisque c'est un petit peu facile de dénoncer en pleine campagne pour les régionales ce qui n'est pas fait par le gouvernement quand on ne balaye soi-même pas devant sa porte.
On parlait de la gestion des classes, des doublements de classes. Ce qui n'arrange pas l'affaire là, dans la situation sanitaire actuelle, c'est la réforme des lycées et le fait qu'il n'y ait plus vraiment de classes, que maintenant les élèves peuvent circuler d'une classe à l'autre selon les options, les cours qu'ils ont choisis.
Tout à fait, hein. C'est d'ailleurs l'une des raisons essentielles du brassage. On peut avoir jusqu'à 8 ou 9 spécialités dans une même classe, donc 8 ou 9 groupes dans une même classe. Et c'est ce qui amène effectivement une augmentation tout à fait considérable des risques sanitaires à l'intérieur d'une même classe. Alors, ça n'empêche pas, parce qu'au début, la réaction à la fois de la rectrice et puis du ministre, c'était de dire que c'était absolument pas possible de faire des demi-groupes. Ça n'empêche pas, en fait, de faire malgré tout des demi-groupes sur la partie tronc commun, mais y compris sur la partie spécialité.
Est-ce que l'un des enjeux en ce moment pour les enseignants, c'est aussi de faire reconnaître le Covid comme maladie professionnelle? Et qu'est-ce que ça changerait pour vous, ça?
Alors, c'est un enjeu depuis… alors, il y a deux enjeux. Il y a faire reconnaître comme maladie professionnelle et puis la suppression du jour de carence. Ça entraîne en fait qu'un certain nombre de personnels, enseignants ou non-enseignants, ils regardent, si je puis dire, à deux fois avant de rester en sécurité chez eux et d'éviter de créer ou de relayer une chaîne de contamination. Donc, c'est vraiment une mesure de santé publique qui n'est toujours pas prise par ce gouvernement. Effectivement, la maladie professionnelle, c'est aussi un axe de bataille depuis mars de l'année dernière. On sait que les soignants l'ont obtenu au prix de moult victimes. On souhaiterait qu'on n'en arrive pas là dans l'éducation. Ça change effectivement beaucoup de choses, notamment au niveau de la prise en charge et au cas où il y aurait une évolution funeste de la maladie pour la personnelle. C'est pour l'ensemble de la famille que ça change, puisqu'il y a des aides qui peuvent être mises à disposition des familles. Donc oui, c'est une bataille. Et surtout que nous sommes particulièrement exposés. Alors je parle, nous, c'est pas seulement les enseignants, c'est l'ensemble de la communauté éducative, bien sûr.
Dernière question, Catherine Piécuche. Cette manif du 10 novembre, elle intervient aussi une semaine après le cafouillage de la rentrée sur l'hommage à Samuel Paty. Est-ce que ça participe aussi à une forme de ras-le-bol des profs, obligés aussi de s'adapter à différentes situations?
Alors, je pense que c'est encore plus même qu'un ras-le-bol. C'est le ras-le-bol d'être méprisé. Les revirements par rapport à l'hommage à Samuel Paty ont été très très mal vécus par l'ensemble de la profession. La majorité des personnels l'ont vécu vraiment comme une gifle à leur égard, mais surtout envers la mémoire de notre collègue. Donc, on avait bataillé et obtenu pendant 10 jours pour pouvoir avoir cette banalisation de 2 heures, pour pouvoir se retrouver tous ensemble, pouvoir préparer correctement l'hommage à notre collègue avec nos élèves, avec une minute de silence qui soit faite dans la dignité. Et dans nombre d'endroits, ça n'a pas été possible. Alors, là où les chefs d'établissement ont été ouverts, ils ont maintenu un temps, alors souvent même les 2 heures, parfois 1 heure, mais qui était absolument nécessaire. Mais il faut savoir que dans de très nombreux endroits, il n'y a pas eu ce temps, et notamment dans le premier degré, dans beaucoup de collèges également. Et je dirais que ça a été quelque chose qui a été fait n'importe comment. C'est vraiment une insulte, à la fois pour les personnels et pour la mémoire de Samuel Paty.
Catherine Piécuche, secrétaire académique de la FSU Nord-Pas-de-Calais. On vous rappelle qu'aujourd'hui, mardi 10 novembre, c'est une journée de grève dans l'éducation nationale à l'appel de nombreux syndicats enseignants. Info 30, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission préparée avec l'aide de Boris, Bernard et Nico. Prochaine édition, demain, 7h30, 12h30 et 18h. A plus.